écoutez le monde changer.
15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Tous les jours, de 15h à 16h, nous répondons à vos interrogations sur les petits et gros bobos qui vous préoccupent. Et lui, les bobos, ça tombe bien, il les soulage au quotidien. Et il est à mes côtés tous les jours pour le faire, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la remise en forme des femmes après une grossesse, après 9 mois, à porter un bébé, un accouchement parfois difficile. Le corps des femmes qui ont donné la vie n'est plus tout à fait le même. Alors si pour certaines, ça n'a aucune importance. Pour d'autres, retrouver leur silhouette d'avant est très important. Eh bien, on va vous y aider aujourd'hui avec tous les conseils de notre invité. Nous recevrons le coach sportif Vincent Martin. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'une étude qui montre que le stress pourrait faire baisser nos défenses immunitaires. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler d'un sujet qui va intéresser aussi les parents qui viennent d'avoir un bébé, les croûtes de lait. Ces petites plaques qui peuvent parfois apparaître sur la tête des nourrissons. On vous expliquera ce que c'est et bien sûr comment s'en débarrasser. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question d'animaux. Enfin, plutôt, elle répondra à la question d'un jeune homme très perturbé dans sa vie sexuelle par le chien de sa copine.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première, c'est celle de Franck, 47 ans.
Bonjour, je m'appelle Franck Collet, je vous appelle par rapport aux vergetures. Moi, j'en ai une à l'intérieur de la cuisse qui fait à peu près 10 cm de long sur 1 cm de large, très violette. Et ben, j'aurais voulu savoir ce qu'on pouvait des fois y faire. Pour info, j'ai 47 ans. Voilà. Merci beaucoup.
Merci Franck pour votre question. Alors les vergetures, ça tombe bien, nous avions fait il y a quelques semaines une émission consacrée à ce sujet. Alors justement, pour répondre à la question de Franck, on a interrogé une spécialiste. On écoute les conseils de la dermatologue Laurence Netter.
Les vergetures chez les hommes qui sont subites comme ça sont souvent secondaires à du culturisme, de l'exercice physique à outrance. Malgré tout, il faudrait que ce monsieur aille peut-être consulter un endocrinologue pour être sûr qu'il n'a pas un désordre endocrinien, c'est-à-dire des surrénales qui fonctionnent trop et sécrètent une hormone qui fragilise la peau. Une fois que cela a été fait, eh bien, il faut rassurer ce monsieur en lui disant que quoi qu'il arrive, sur du long terme, cette vergeture va blanchir pour devenir cicatricielle. Malgré tout, nous, dermatologues, nous avons des moyens pour activer ce passage à la phase moins visible, à la phase cicatricielle. Et puis, nous avons des lasers ou de la radiofréquence. Et donc, en chauffant par nos lasers, on va activer la cicatrisation, ce qui va permettre d'avoir une vergeture définitive qui sera plus petite, plus courte, moins large et moins profonde.
Voilà Franck, j'espère que cela répond donc à vos interrogations. Il y a donc des solutions pour atténuer votre problème à présent. Nous passons donc à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Emma. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. En fait, je vous téléphone, j'ai discuté avec un ami qui m'avait expliqué l'autre jour qu'il ne pouvait pas uriner quand il est en érection. Et alors là, je trouve ça vraiment fou. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, c'est le cas chez tout le monde ?
Bon, eh bien, c'est une question à laquelle je n'avais jamais pensé, moi perso, mais bon, pourquoi pas. Pour répondre à Emma, on va faire appel à votre expertise, Jimmy, souvent très pointue, hein, faut le dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur uriner et érection ? C'est incompatible ou pas ? Physiologiquement parlant, il se passe quelque
Alors,
chose qui bloque ?
Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « gourdin du matin, pipi du matin ».
Non.
Donc c'est pour traduire le fait que certains hommes, lorsqu'ils se réveillent, peuvent avoir une érection, mais sans stimulation sexuelle. Pour autant, ils arrivent quand même à faire un petit pipi, parce que l'érection, elle n'est pas très dure. Alors on va expliquer les choses. Alors le pénis, c'est un organe qui est extraordinaire, qui permet à la fois d'évacuer l'urine et le sperme, mais vous savez que les hommes ne savent pas faire deux choses à la fois.
Non,
donc,
ça c'est clair.
En principe, ils ne peuvent pas avoir et une érection et faire pipi, mais ce n'est pas de leur faute. Il faut savoir que le pénis, il est constitué de trois cylindres. On a un corps spongieux qui entoure l'urètre et qui sert justement à réguler le diamètre de l'urètre pour laisser passer l'urine ou le sperme. Mm-hmm. Mais on a aussi deux corps caverneux qui sont responsables de l'érection. Avant d'avoir une érection, vous avez d'abord une petite stimulation. Elle peut être physique, le toucher.
Tout
sur la vie. On peut avoir une stimulation psychique, le fait d'avoir du désir ou sensoriel. Ça transmet au niveau de la moelle épinière un message nerveux jusqu'au nerf érecteur. Le nerf érecteur va être responsable d'un relâchement des muscles lisses des corps caverneux qui va permettre un afflux sanguin assez important de sang au niveau de du sexe, permettant l'érection. Sauf que pour avoir une bonne érection, il faut avoir aussi de la pression. Et donc, à ce moment-là, on a une diminution du retour veineux par compression des petites veines. Sauf qu'une fois qu'on a la compression, eh ben, l'urètre est écrasée par le corps.
Ça bloque le pipi.
Et on ne peut pas laisser le pipi. Deuxième mécanisme, on a aussi le col au niveau de la vessie qui se ferme et qui fait que normalement, lorsqu'on a une érection, on ne peut pas faire pipi. Mais ce n'est pas la faute de ces messieurs.
D'accord. Alors, rapidement, est-ce qu'on peut aussi être bloqué de faire, sur l'action de faire pipi pour autre chose rapidement?
Alors, attention, si jamais vous n'arrivez pas à uriner alors que vous n'êtes pas en érection, ça peut être dans le cas d'une rétention aiguë d'urine. Chez l'homme, le plus souvent, c'est un problème lié à la prostate, puisque la prostate, c'est un organe qui se trouve pas loin de la vessie et des voies urinaires. Et donc, si la prostate augmente de volume, ça appuie sur les voies urinaires et vous ne pouvez plus faire pipi, raison pour laquelle il serait urgent soit d'aller aux urgences, soit de consulter un urologue.
Merci beaucoup, Jimmy. Grâce à vous, on sait tout ce qu'il faut sur le pipi. Merci beaucoup. Alors, si vous aussi, comme Emma, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'une étude qui montre que le stress pourrait faire baisser nos défenses immunitaires. Il nous expliquera bien sûr comment tout ça fonctionne. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, le coach sportif Vincent Martin, qui va nous donner toutes ses recommandations et même quelques exercices très précis, vous allez voir, pour aider les femmes qui viennent d'avoir un bébé à retrouver leur silhouette d'avant-grossesse. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le coach sportif Vincent Martin, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui Jimmy, vous allez nous parler d'une étude qui montre que le stress peut contribuer à baisser nos défenses immunitaires. Ce lien est assez documenté, mais des chercheurs français ont découvert le mécanisme qui peut l'expliquer. Ce sont les récepteurs bêta-2 adrénergiques. Qu'est-ce que c'est que ça?
Voilà. Alors, c'est une étude passionnante. L'équipe INSERM, qui est menée, il faut la citer, par Sophie Ugolini, avec une équipe du CNRS, qui ont publié leurs résultats dans la revue Journal of Experimental Medicine. Alors, ces récepteurs bêta-2 adrénergiques, c'est des récepteurs qui sont exprimés à la surface de nombreuses cellules de l'organisme, dont les cellules immunitaires, et qui sont spécifiques des hormones du stress, l'adrénaline et la noradrénaline.
Alors, comment ils ont fait ensuite?
Alors, pour étudier le rôle de ces récepteurs, l'équipe a d'abord mimé une situation de stress chronique chez des souris en administrant pendant 7 jours une molécule qui, comme les hormones du stress, stimule ces récepteurs bêta-2 adrénergiques. Ils ont ensuite exposé les animaux à des virus de la famille herpès, le CMV, le cytomégalovirus, et chez les souris stressées, le taux de mortalité était de 90%.
Wow, je suppose qu'ils ont comparé ça à des souris qui n'avaient pas ces récepteurs. Je ne donne pas le nom parce que j'y arrive plus.
Bêta-2 adrénergique, ils ne sont pas des molécules. Donc, dans ce second temps, les chercheurs ont évalué la résistance des animaux à l'infection en l'absence de ces récepteurs. Pour cela, ils ont donc exposé les souris au même virus, sauf que celles-ci n'avaient plus ces récepteurs bêta-2 adrénergiques. Et comme elles n'ont plus ces récepteurs, l'hormone du stress ne marche plus. Et chez ces souris, miracle, 50% ont survécu contre 90% à côté. Ces premiers résultats suggèrent donc que la stimulation des récepteurs par les hormones du stress serait responsable de l'affaiblissement du système immunitaire en situation de stress psychologique.
Et est-ce qu'on a d'autres explications éventuellement ou pas?
Alors, chez les souris qui n'avaient pas de récepteurs, l'équipe a observé une augmentation de la production de cytokines inflammatoires. Les cytokines, ce sont des molécules qui sont produites par les cellules immunitaires et qui vont favoriser l'élimination des virus. A contrario, les chercheurs ont découvert que les récepteurs bêta-2 adrénergiques inhibent tout particulièrement la réponse de certaines cellules immunitaires qu'on appelle les natural killers. Ces natural killers,
les tueurs,
exactement.
Ouais,
sauf qu'on n'en a plus quand on est stressé. Et ces travaux pourraient ouvrir des perspectives thérapeutiques, car en ciblant justement ces récepteurs, il serait peut-être envisageable, dans un contexte pathologique, de lever les freins immunitaires provoqués par un état de stress. Donc une étude assez intéressante.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour toutes ces précisions scientifiques. Et tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est Vincent Martin, coach sportif. Il est aussi responsable de l'expertise sportive chez Neoness.
15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Vincent Martin.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir à nouveau. Vous étiez venu nous parler il y a quelques mois de préparation au sport d'hiver. Alors aujourd'hui, on parle de grossesse et d'après-grossesse surtout. D'abord, il faut dire qu'on n'est pas tout égal face à cette déformation du corps, ces changements du corps après-grossesse. Il y a des femmes chez qui, quelques semaines après, on ne voit plus rien, hein, c'est vrai. Hein.
Exactement. Bon, après, vont beaucoup jouer le passé sportif et l'activité que la femme aura eue avant sa grossesse. Donc, logiquement, plus on aura été active avant et plus on aura été sérieuse pendant sa grossesse, plus plus rapidement, on va retrouver son corps d'antan.
Parce qu'en fait, tout dépend surtout de la prise de poids, il faut dire ce qui est qu'on a eu pendant la période, hein, c'est ça?
Voilà, exactement. Ça peut aller de 6 kilos à 30 kilos, voire plus même pour certaines personnes. Donc, tout dépend de la prise de poids.
C'est ça qui va déformer plus ou moins le corps, enfin en tout cas l'affaiblir musculairement et tout ça.
Exactement, et puis l'activité qu'on va garder pendant la grossesse.
Jimmy ?
Et il y en a même certaines qui se retrouvent même mieux au niveau de leur silhouette après avoir un bébé. Alors c'est parfois un peu rageant, je peux comprendre, mais
ouais, c'est clair.
Après un accouchement, finalement, on peut aller encore mieux au niveau de son corps.
Oui, il y a pas mal de mamans qui prennent l'accouchement comme un nouveau départ et qui prennent des nouvelles résolutions et qui ont,
de vie saine,
qui vont notamment apporter une alimentation saine à leur enfant et vont en profiter pour se caler dessus. Et puis décider de se mettre au sport et d'être active et en forme pour bien éduquer leur enfant.
Donc, grosso modo, si on prend 12 kilos à peu près pendant la grossesse, ça va. Au niveau musculaire, c'est derrière, c'est pas trop compliqué.
C'est entre 12 et 15 kilos. Un bébé fait 3,5 kilos, mais après, on rajoute pas mal de choses. La rétention d'eau, notamment, qui arrive au 7e et 8e mois. Le sang du bébé, le placenta. Tout ça fait qu'entre 12 et 15 kilos, c'est tout à fait normal.
Dans les mois qui suivent, elles perdent tout et se retrouvent à peu près avec leur corps
c'est
d'avant.
C'est ça. Il y a seulement 15% des femmes qui n'arrivent pas à perdre le poids qu'elles ont eu pendant leur grossesse un an après.
D'accord.
Donc globalement, voilà, finalement, il y a beaucoup de femmes qui arrivent.
Malgré tout, si on perd vraiment tout le poids, on peut quand même avoir un corps qui s'est relâché. Notamment, j'imagine que la zone qu'on vous demande le plus de retravailler après la grossesse, c'est la zone autour du ventre. Il s'est relâché, là, la peau s'est détendue. Ça, c'est vraiment la principale demande des femmes après la grossesse. Travailler cette zone-là.
Oui, travailler la sangle abdominale, bien sûr, le bas du corps aussi, au niveau des fessiers, là où il y a eu pas mal de graisse qui a été stockée, et ce qui est tout à fait normal. La peau reprend sa tonicité naturellement, progressivement. Plus du travail cardio et un petit peu de renforcement musculaire, on arrive à retrouver sa silhouette.
Merci Vincent Martin, on n'en a évidemment pas terminé avec vous, on reste ensemble. Europe 1. Dans un instant, on va commencer peut-être à chausser les baskets tout doucement, tranquillement, car vous verrez qu'après une grossesse, il faut quand même être patiente pour retrouver son corps d'avant. Avec notre coach, on va voir quelles sont les zones du corps qui ont le plus besoin justement de renforcement musculaire après un accouchement. La ceinture abdominale, ça, on s'en doute, mais pas seulement. On va tout vous expliquer. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le coach sportif Vincent Martin. Vincent, avant de parler de l'après-grossesse et de ce qu'on peut faire comme travail musculaire pour retrouver sa silhouette, il faut rappeler que pour limiter les dégâts après, eh bien en fait, on peut tout simplement faire du sport quand même quand on est enceinte, c'est pas une maladie. Et ça, c'est la première règle hein, finalement. Enceinte, on ne doit pas tout arrêter. Même au premier trimestre, on peut faire quoi par exemple?
Au premier trimestre, alors souvent en plus au premier trimestre, on a un pic d'énergie dû à une montée hormonale qui fait qu'on va vraiment avoir envie d'être actif et de faire pas mal de sport.
Parfois, il y a des gros coups de fatigue aussi au premier trimestre.
Oui, ça peut arriver aussi, mais globalement, les femmes sont assez en forme. On va faire principalement du renforcement musculaire, mais aussi du cardio, mais sans impact.
On ne court pas sur un tapis, par exemple, parce que la grossesse est fragile,
voilà,
justement.
La grossesse est fragile sur les trois premiers mois, donc surtout pas d'impact. On peut faire du vélo, on peut faire du vélo elliptique, du renforcement musculaire.
Jimmy ?
Deuxième trimestre, c'est une phase un peu d'épanouissement. En règle générale, les femmes se sentent un peu mieux entre le premier trimestre des nausées et puis le dernier trimestre où ça commence à chauffer. Mais néanmoins, il faut être un peu vigilant.
Oui, là, on va commencer à faire pas mal d'exercices assis. Toujours limiter les impacts, même si le bébé est mieux accroché et qu'on... On peut s'aventurer un petit peu plus, mais on va quand même être prudent et limiter les impacts.
Et attention aux blessures aussi, surtout. Hein, au deuxième trimestre, pourquoi ?
Exactement, parce qu'en fait, il y a une hormone qui est sécrétée chez les femmes enceintes, qui s'appelle la relaxine, qui fait qu'en fait, on a les articulations qui sont beaucoup plus souples et parfois même hyperlaxes.
Ah ouais.
Donc par exemple, quelqu'un qui a déjà naturellement les articulations un petit peu laxes, avec la relaxine, ça risque d'être extrême et on peut se blesser.
Et au troisième, bon, on fait du sport, mais assis et tranquille.
Ouais,
quoi,
voilà,
on attend
le troisième, c'est de l'entretien. De toute façon, en grossesse, on ne cherche pas à avoir des objectifs énormes.
Bien sûr, mais juste rester en forme. Justement, rester active pendant sa grossesse, on va parler bien sûr juste après de l'après, mais pendant sa grossesse, ça limite pas mal de problèmes, hein, même plein de maladies, hein, je crois.
Oui, bien sûr, ça limite pas mal de problèmes. Il faut savoir qu'enceinte, des études ont démontré qu'on pouvait faire jusqu'à 150 minutes de sport par semaine. Donc, c'est quand même assez énorme. Ça va limiter, en effet...
Moi, j'avais tout arrêté. C'était pas bien du tout.
Ça va limiter des maladies. Et notamment, ça peut prévenir le diabète gestationnel.
Ah oui.
Qui peut être un diabète qui peut être assez grave pour la maman et surtout pour l'enfant. ça peut limiter notamment le fait d'avoir un enfant qui est gros, qui est au-dessus de 4 kilos. Ça va diminuer le risque de prise de poids trop importante également pour la femme. Donc il y a 40% de risque.
Il y a des gros avantages quand même.
Il y a beaucoup d'avantages. Et puis surtout, il y a une tonicité musculaire qui va être maintenue et importante pour la grossesse et l'après.
Jimmy ?
Une fois qu'on a accouché, enfin, ou que la femme a accouché plutôt, quelles sont les parties du corps qui sont...
Bien, vous acceptez le fait que vous ne faites rien dans l'histoire, mais
oui,
c'est
exactement,
bien
Jimmy. C'est l'accompagnement psychologique et bienveillant uniquement. Mais c'est vrai que vous faites tout le travail. Et une fois qu'on a accouché, quelles sont les zones à renforcer prioritairement, pardon, les zones de faiblesse après l'accouchement, c'est lesquelles ?
Alors, bah, bien sûr, il y aura la sangle abdominale
qui va être relâchée.
Mais la première zone à travailler, c'est de faire une rééducation du périnée et du plancher pelvien qui est quand même essentiel pour tous les efforts qui vont suivre par la suite. Le plancher pelvien, c'est un muscle qui retient les organes, c'est comme une sorte de hamac, on va dire, qui retient les organes et qui est essentiel pour fournir le moindre effort par la suite. Et
donc on ne fait rien avant cette rééducation.
Voilà, il faut faire cette rééducation, il faut avoir le feu vert du médecin.
Oui, la rééducation, pas la salle de sport, quoi.
Ou le
kinésithérapeute éventuellement.
On ne fait pas ça avec vous, non.
Alors il y a le médecin ou le kiné souvent qui fait faire des exercices en cabinet, mais qui donne aussi pas mal d'exercices à faire.
À la maison ?
À la maison. L'exercice le plus connu, c'est par exemple l'exercice qu'on peut faire lorsqu'on prend l'ascenseur.
Ah bon ?
Par exemple, voilà, au premier étage, ou au rez-de-chaussée, par exemple, la maman ne se retient pas de faire pipi, puis au premier étage, va se retenir un peu plus, et elle va jouer à ce jeu-là jusqu'au troisième, quatrième
et
étage.
Et on fait pipi dans l'ascenseur, c'est
et
quoi ?
Et surtout, arrivé au quatrième étage, on ne relâche pas d'un coup. Hein.
D'accord.
On relâche progressivement. Donc ça, par exemple, c'est un exercice qui s'appelle le travail de Kegel, et c'est des exercices qui vont être donnés dans la vie de tous les jours par les kinés ou les médecins.
Et vous dites que bien sûr, elles sont souvent obsédées par le ventre, elles veulent refaire des abdos pour retrouver un ventre un peu plus plat, etc. Mais vous dites surtout, il faut remuscler le dos. Pourquoi il faut muscler le dos absolument après l'après-grossesse ?
Alors déjà, bon, pendant toute la grossesse, on a eu le poids du ventre qui nous a un petit peu tiré vers l'avant. On voit souvent les mamans qui sont ultra cambrées, parce qu'en fait, elles compensent le manque de tonicité du dos en se penchant vers l'arrière, mais ce n'est pas bon. Et quand on regarde une maman, dans la journée, soit elle est hyper cambrée, soit elle est penchée vers l'avant.
Complètement.
Donc en fait, c'est parce qu'elle compense en permanence ce manque de tonicité qu'elle a eu au niveau du dos. Puis quand l'enfant naît, on se dit c'est bon, ce poids est parti. Ben non, parce que l'enfant, on va le porter. Donc à nouveau, on va avoir une charge qui part vers l'avant. La première chose à faire, c'est de renforcer les rhomboïdes. C'est le muscle qui va tenir la colonne vertébrale, qui va nous permettre d'être fort et stable et de pouvoir tenir son enfant sur la longueur et pas avoir de douleur.
Merci Vincent Martin, nous allons reprendre cet entretien dans quelques minutes, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe dans la salle de gym. Donc si vous avez un bébé et que vous souhaitez retrouver une silhouette qui vous convient mieux, ce qui va suivre va vous intéresser et promis, on vous a préparé un programme de remise en forme tout en douceur. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le coach sportif Vincent Martin. Il est aussi responsable de l'expertise sportive chez Neoness. Vincent, on va passer à la pratique à présent. Vous allez nous expliquer le bon programme sportif pour aider une femme, après une grossesse, à retrouver un corps plus tonique. Déjà, combien de temps après l'accouchement, donc une fois qu'on a fait cette rééducation du périnée dont on a parlé tout à l'heure, on peut revenir dans la salle de gym ? 3 mois, 6 mois après l'accouchement ?
Si la rééducation s'est bien passée, on a le feu vert du médecin, 3 mois après, on peut revenir déjà.
Il vaut mieux vous prévenir, les coachs en salle, qu'on vient d'avoir un bébé. C'est important de savoir ça pour vous.
Ouais, c'est très important. Le programme va être totalement différent pour quelqu'un qui arrive en salle, on va dire l'adhérent lambda, et puis une nouvelle maman. Ce n'est pas du tout les mêmes exercices et les mêmes précautions.
Alors, on va chausser les baskets, justement. La principale demande, c'est le ventre, clairement. Enfin, quand on a eu un bébé, c'est cette zone-là qui est tout de suite, après l'accouchement, plus relâchée, qui peut vraiment gêner la maman. Pour retrouver un ventre un peu plus plat, on peut faire quoi précisément ? Bon, on pense aux abdos, mais les abdos classiques, ce n'est pas ce qui est recommandé, crois.
Surtout pas. Il ne faut surtout pas faire ce qu'on appelle les crunchs. Donc, les crunchs, c'est les abdos traditionnels où on place les deux mains derrière la tête et on tire la tête vers l'avant.
Ça, jamais après une grossesse.
Surtout pas. Même de manière globale, ce n'est pas un exercice qui est vraiment recommandé. Souvent, les gens font ça pour avoir un ventre plat et ça peut faire tout l'inverse.
Ah bon ?
Ouais, on peut avoir au centre des abdos.
Jimmy, ça ne sert à rien, faites pas d'abdos, il a dit.
Non,
vous
mais
aurez
j'en fais pas, vous l'aurez pas. J'ai bien compris que ça ne sert à rien.
Il s'est mis par terre, il commence à faire des abdos. Non, c'est pas la peine.
Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi j'en fais pas.
On a en fait une ligne blanche qui sépare les abdominaux en deux. Si on fait trop de crunch vers l'avant, en fait, on peut avoir les viscères qui vont être poussés vers l'avant, et au lieu d'avoir un ventre plat, on risque d'avoir un ventre qui va être encore
plus arrondi,
pousser en fait sur cette ligne blanche.
Donc vous aviez raison, il ne faut pas en faire.
Donc non, c'est absolument pas recommandé. Il vaut mieux faire ce qu'on appelle du travail de gainage. Donc comme on l'avait préconisé déjà
dans l'émission précédente,
le travail de planche est idéal.
Donc expliquez-nous à quoi ça ressemble, parce qu'on voit pas effectivement.
La planche, on va démarrer. Alors il y a deux options. La première option, on va démarrer sur les genoux, on met les coudes vers l'avant, alignés avec les épaules, et on regarde vers le sol en essayant de former une planche et d'avoir une ligne entre sa nuque, ses épaules, son bassin et ses genoux. Idéalement, ensuite, c'est de passer sur la pointe des pieds et d'essayer de former une planche parfaite sans avoir le bassin qui monte trop.
Ah oui, mais, non, mais je suis dépité parce que j'ai vu que le record du monde de gainage de planche, quelqu'un a tenu plusieurs heures, 8 heures,
8
je crois.
Ouais, alors là, c'est pas ça l'objectif.
Moi, j'ai tenu, je l'ai fait la semaine dernière parce que j'étais un brin de motivation, j'ai tenu 45 secondes. Ça semblait lamentable.
Ah bah,
mais la question, c'est combien de temps il faut tenir.
C'est pas lamentable. À partir de 45
secondes.
Moi, je pense
que je fais plus que vous.
C'est un bon début. On considère que la personne n'est pas dans un mauvais état physique.
Vous n'êtes pas grabataire, c'est bon.
Voilà. Mais du coup, vous devriez essayer de tenir combien de temps? 20 secondes, parce que c'est un exercice
pour une maman, une nouvelle maman.
Il n'y a pas d'objectif. Il faut vraiment y aller au ressenti et il ne faut surtout pas se brusquer. On peut démarrer par 10 secondes et puis toutes les semaines, on va augmenter de 5 secondes à chaque fois. Idéalement, après, si on arrive à faire des séances.
On en fait plusieurs, c'est ça?
On va en faire 5 par exemple. Mais l'idéal, c'est de tenir au bout de quelques semaines une minute trente. Mmh. Le but n'est pas de battre des records, mais justement de sentir que son corps se tonifie et qu'on a vraiment cette sensation que les muscles vont former un cercle autour de la sangle abdominale. Et c'est ça qui va faire qu'on va resserrer le ventre et d'avoir un centre du corps gainé.
Ça, pour avoir ce ventre donc un peu plus plat, plus musclé de nouveau. Donc il y a cette planche à plat, le corps face au sol, on va dire. Il y a aussi la version latérale, là, pour travailler les obliques un peu. Enfin, c'est ça, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça d'ailleurs.
On va plus travailler les obliques, pareil.
On va vraiment travailler
notre gainage, mais on peut le faire de manière unilatérale.
C'est exactement ça. Vous tournez sur le côté. Non, je rigole.
On va poser un coude sur le côté. Et puis, même option, soit on va se mettre sur les genoux, soit on va se mettre après sur la pointe des pieds pour former une planche parfaite. Souvent, on tient moins.
Sur le côté, c'est plus difficile.
Il ne faut pas s'étonner si on tient moins de temps sur le côté qu'en planche traditionnelle. Donc là, c'est pareil. Même si on démarre avec 5 secondes, ce n'est absolument pas un problème. L'essentiel, c'est d'être régulier et puis de progresser à son rythme.
Jimmy ?
Je suppose qu'il faut aussi un petit peu de cardio. Alors, c'est quelque chose que moi j'ignore à titre personnel, mais qu'est-ce qu'on fait ? On va sur le tapis de course et on se met à courir le plus longtemps possible ?
Ah non, surtout pas.
Surtout chez une femme qui a eu un bébé, on ne fait pas ça.
Une femme qui a eu un bébé, on va vraiment. Alors, l'idéal, c'est d'acheter un cardio-fréquence-mètre. C'est une petite montre qu'on achète.
Dans les magasins de sport, il y en a les premiers prix, ça marche très bien.
C'est 15-20 euros, ça marche très bien. Et on va se caler sur sa fréquence cardiaque. On ne va pas dépasser les 70% de sa fréquence cardiaque.
Par exemple, donc ça fait quoi ?
Il y a une théorie qui est généralement assez juste où on prend 220 moins l'âge. Mm-hmm. Donc 220 moins l'âge, ça va nous donner notre fréquence cardiaque max théorique.
Mm-hmm. Donc vous qui avez 20 ans, Mélanie, à 20 ans, c'est 220 moins 20, donc c'est 200 la fréquence maximum théorique qu'on peut atteindre.
Et pour quelqu'un de 20 ans, 70% de sa fréquence max, il pourra la tenir facilement 3 quarts d'heure, 1 heure, mm-hmm. à 140 pulsations.
D'accord. C'est ça. Et il ne faut pas pousser trop non plus. C'est-à-dire qu'il faut faire un peu travailler le cœur quand on vient d'avoir un bébé. Comme ça, c'est important de reprendre le cardio, mais on n'est pas obligé de courir, de marcher sur un tapis ou de faire du vélo pendant 1 heure non plus. Hein. C'est 10 minutes au départ.
Non. Ouais. Voilà, au début, c'est 10 minutes. Le but, c'est d'être à l'aise, de se faire plaisir. Il faut que ce soit aussi un moment d'évasion pour la maman. Et surtout, toujours avec ce rythme cardiaque contrôlé, parce qu'en plus, ce rythme cardiaque, c'est le rythme idéal pour perdre un maximum de masse adipeuse.
Ben super, merci beaucoup Vincent Mertin d'être venu nous expliquer tout ce qu'une femme après une grossesse finalement peut faire très concrètement pour se remettre en forme au niveau musculaire et retrouver si besoin, si l'envie aussi, bien sûr, en force personne. Hein, certaines acceptent tout à fait leur nouvelle forme. En tout cas, pour celles qui souhaitent retrouver leur corps d'avant, on a compris le mot d'ordre, c'est pas de précipitation. Merci encore.
De rien.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va intéresser aussi les parents qui viennent d'avoir un bébé. Les croûtes de lait, ces petites plaques qui peuvent parfois apparaître sur la tête des nourrissons. On vous expliquera ce que c'est, bien sûr, et comment s'en débarrasser. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps à présent de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui on parle des croûtes de lait. Savez-vous pourquoi ces petites plaques apparaissent sur la tête de certains nourrissons? Est-ce que c'est grave? Et surtout, savez-vous comment soigner ça? Notre reporter Benjamin Lévesque a été vous poser toutes ces questions. On écoute son micro-trottoir.
Problème de peau qui est dû à un excès de sébum.
Une infection de la peau qui donne des boutons, une sorte d'acné.
C'est l'articulation, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est lié aux femmes enceintes qui ont des enfants et qui font des montées de lait? Je pense que c'est, je pense qu'on a des croûtes au niveau des seins. Ouais.
Alors là, par contre, c'est la colle. J'ai fait du latin, mais alors ça remonte à très loin. J'avoue que là, c'est l'interrogation. Le côté dermis, je pense que c'est avec le derme, mais séboléique, je ne vois pas.
Les croûtes de lait?
Comme un eczéma un peu blanc sur la peau. Après, je ne sais pas trop de quoi c'est, à quoi c'est dû.
De passer du ventre de la mère où ils sont dans un endroit où bah, ils sont protégés et puis l'agression des bactéries à l'extérieur, et c'est le temps que, bah, qu'ils s'habituent à l'environnement.
Alors, n'ayant pas d'enfants, je ne sais pas. Je crois que ce n'est pas forcément tous les enfants, mais je pense que c'est un pourcentage assez important.
Non, ce n'est pas grave, ça finit par partir avec l'âge.
Alors Jimmy, les croûtes de lait, d'abord, c'est quoi? Et pour ceux qui ne le sauraient pas, ça ressemble à quoi d'ailleurs?
Alors c'est la forme modérée de ce qu'on appelle la dermite séboréique qui touche uniquement le cuir chevelu des bébés et qui provoque des plaques croûteuses, grasses, blanches ou jaunes qui adhèrent à la peau du cuir chevelu. Alors ces plaques, elles apparaissent généralement avant 6 mois, en règle générale dans les 2 premières semaines de vie, chez un bébé qui va bien par ailleurs. Elles sont entourées, ces plaques, de rougeurs. Elles apparaissent d'abord sur le haut du crâne au niveau de la fontanelle, cette petite fente où les os ne sont pas encore soudés. Puis elles peuvent s'étendre et déborder du cuir chevelu. Elles peuvent toucher l'arrière des oreilles, la racine des cils ou les sourcils. Rassurez-vous, elles ne provoquent aucune démangeaison et ne sont absolument pas inconfortables pour le bébé. Et enfin, elles ne sont jamais contagieuses.
Mais oui, c'est bien de le préciser, effectivement. C'est quand même tout à fait bénin. Il faut quand même dire, juste pour informer nos auditeurs, qu'il y a quand même une forme un peu plus sérieuse de la dermatite séboréique.
Oui, exactement. Lorsque
séboréique.
La dermatite ou la dermite séboréique, lorsqu'elle s'étend à d'autres parties du corps qui sont riches en glandes sébacées et en sébum, on peut avoir certaines complications. Et les croûtes de lait, elles peuvent fusionner entre elles, voire à l'ensemble du cuir chevelu, toucher même les fesses, donner une forme un peu en culotte rouge vif, notamment sous les couches. Et puis, on peut y en avoir sous les aisselles, dans le cou, derrière les oreilles et derrière les genoux, et au niveau des bras. Mais dans ce cas-là, on a besoin d'une prise en charge particulière. Mmh. Ça reste rare, rassurez-vous.
Très bien, alors on va revenir aux petites croûtes de lait bénignes sur la tête de certains bébés. Est-ce qu'on sait à quoi c'est dû?
Alors, on ne connaît pas vraiment l'origine exacte de cette pathologie, maladie, même si ce n'en est pas vraiment une. Malgré le nom, les croûtes de lait n'ont absolument aucun rapport avec le lait.
Qu'ils soient maternelles ou artificielles, l'alimentation n'a rien à voir dans l'histoire, a priori.
Exactement. Néanmoins, on a 2 facteurs qui pourraient favoriser cette survenue. Un, c'est l'excès de sébum dans les glandes sébacées qui sont situées à la racine des cheveux, et la prolifération anormale d'une levure de type Malassezia, c'est une forme de champignon qui est présente de façon naturelle, mais sur les zones où il y a trop de sébum, on a un peu plus de ce champignon qui, en revanche, n'est pas très agressif.
D'accord, alors on a compris que ce n'est pas quelque chose de grave, ça ne fait pas souffrir les bébés, ça c'est une bonne nouvelle, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour faire disparaître ça? Parce que bon, ce n'est pas très joli, quoi, c'est ça?
On ne fait rien normalement, on laisse le bébé tranquille, n'essayez pas d'appliquer des crèmes, des lotions,
on
ne gratte pas, parce qu'on aura tendance avec l'ongle à avoir ce sentiment de satisfaction. Vous risquez de faire saigner la croûte et de faire mal à votre bébé. En revanche, lors du bain, vous pouvez lui laver les cheveux avec un shampoing doux, utiliser une petite brosse souple pour enlever en douceur les croûtes. On évite, comme on a dit, de le gratter avec l'ongle, ni avec un peigne, ni avec une brosse plus dure, vous risquez de lui faire mal. Et puis, on peut éventuellement, lorsque les croûtes sont trop importantes, appliquer un petit peu de vaseline 2 heures avant le bain, ce qui permet, lorsque vous allez nettoyer les cheveux de votre enfant, de les éliminer tranquillement,
ces croûtes. De les détacher plus facilement.
Exactement, ouais, avec une petite brosse souple. Parfois, certains cheveux partent avec les croûtes.
C'est pas très grave.
Rassurez-vous. Aucun problème.
Ça repousse. Bon, on consulte quand même le médecin ou pas pour ça, du coup?
Non, souvent, lors des 6 premiers mois, on consulte tous les mois jusqu'à 6 mois, puis à 9 mois, vous pouvez en parler. Ça fait rarement l'objet d'une consultation. Lorsque les croûtes persistent, on peut suspecter parfois un champignon. Donc, il peut y avoir des diagnostics différentiels associés.
Une petite crème antifongique, éventuellement, si c'est grave. Mais
exactement.
Sinon,
néanmoins, souvent, les parents nous en parlent. Mais voilà, n'appliquez rien et laissez les bébés tranquilles. Ils vont en généralement très bien.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Europe 1. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, c'est la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler de la sexualité parfois perturbée par nos animaux domestiques. Ça vous intrigue? Eh bien, on en parle juste après. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, elle entre dans le studio, c'est Catherine Blanc. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va répondre à la question de Johan. Je vous la lis. Souvent, lorsque nous faisons l'amour, le chien de ma copine reste présent dans la pièce. Cela n'a pas l'air de la déranger, mais moi si. Pourtant, elle refuse d'enfermer son chien. Que devons-nous faire pour éviter une séparation?
Il a raison, c'est bizarre.
Jimmy n'aime pas les chiens.
Non, mais faut le dire, c'est bizarre, non? Un animal qui nous regarde pendant l'acte sexuel, non? Catherine... On parle pas du poisson rouge, là.
On parlera de Jimmy juste après. Catherine, c'est vrai que c'est un peu étrange, non, de faire l'amour devant son animal. Je sais pas, moi, j'avais un chat qui n'a jamais, enfin, qui restait pas là, il regardait pas, quoi.
Bah, effectivement, ça pose de toute façon, parce que pour l'animal, c'est l'animal, bah on se moque un peu de ce qui se passe dans sa tête, même s'il se passe éventuellement des choses. Mais le fait est que c'est faire rentrer un tiers dans la relation, de fait, et surtout quand c'est son animal de compagnie, avec donc un tiers avec lequel on a un vrai lien d'affection, on a un vrai lien même d'échange, de conversation, quand bien même il ne parle pas, où il y a une véritable place qu'il prend avec un territoire qui est le sien. Et effectivement, ça pose la question de pourquoi veut-elle absolument garder ce chien dans...
Enfin, en tout cas, elle ne le fait pas sortir, quoi, c'est ça.
Elle ne le fait pas sortir. Alors, on peut imaginer plein de choses. Ou elle le laisse parce que...
Sinon, il va rester derrière la porte et il va gratter pendant toute...
Peut-être. Ou parce qu'elle a peur de l'abandonner. Donc, ce qui veut dire que d'ailleurs, si ce couple-là aurait un enfant, ben alors après tout, l'enfant, il serait aussi là tant qu'on y est. Ouais. Puisqu'il ne parle pas, il ne voit rien, il est nourrisson, etc. Bon, alors pourquoi pas le laisser? Il se trouve que le partenaire, lui, ça le dérange. Alors, pour plein de raisons, ça pose la question de pourquoi. Est-ce que ça le dérange pour le chien?
Mais c'est une gêne à prendre en compte.
Mais en tout cas, ça le dérange parce qu'il y a une sorte de rivalité. C'est-à-dire qu'il y en a un qui attend son dû, qui attend son os, qui attend sa caresse. Et quand lui, il est en train de faire l'amour avec sa compagne. Donc, évidemment, il y a une idée de rivalité pour le partenaire. Et puis, il y a une idée pour la partenaire de ce tiers qui doit rester là, comme si elle avait peur de l'abandonner.
Bon, Jimmy veut mettre le chien dehors. Lui, on a compris.
Ah oui, sans négociation possible. Mais si le chien dort, par exemple, c'est le même problème. Moi, je serais très perturbé d'avoir un chien dans une pièce avec un... Enfin bon, passons mon exemple, mais c'est normal.
Ou il est voilà. En train de faire l'amour,
non,
c'est ça
voilà.
Qu'il voulait dire.
Non, mais même si le chien dort ou le chat dort, c'est quand même perturbant. Johan, sa réaction, elle est plutôt saine.
Bah, elle est saine dans le sens où, en tout cas, c'est sa réaction. C'est-à-dire que, bien sûr que si le chien dort, ça dépend ce que vous projetez sur le chien. Si c'est évidemment comme un enfant, vous le feriez, vous, ça vous renvoie exactement la même chose que s'il y avait un enfant dans un berceau dans la chambre. Et ça ne serait pas acceptable pour vous. Et à ce titre, c'est complètement recevable, c'est extrêmement sain et c'est sain pour ce bébé qui va grandir, etc.
Et il peut utiliser cet argument, Johan, en disant écoute, si on avait un bébé dans la pièce, on ne ferait pas l'amour.
Exactement.
Là, c'est exactement la même chose.
Exactement.
Une façon de désamorcer,
oui, tout à fait. Dire écoute, mais où va-t-on? Si alors demain on a un enfant, il est dans la chambre, tu as peur de le mettre de l'autre côté, tu as peur qu'il pleure, tu as peur de ne pas l'entendre et donc on ne fera plus l'amour si je ne veux pas le faire avec la présence du bébé ou on le fera devant notre enfant qui va être exposé à quelque chose qui ne le concerne pas.
Mmh. Mais au fond, c'est si grave, Catherine, de faire des couples qui feraient l'amour avec un bébé dans la chambre?
Grave, non. Ça n'est pas grave. Encore une fois, mettons-nous dans certains points du globe où de toute façon,
les proximités,
elles sont importantes. Simplement, il faut bien comprendre qu'un enfant va... D'abord, quand il est tout nourrisson, il sent la présence de sa maman. Si elle l'allaite, il sent la montée de lait. Donc, de toute façon...
Ah bah, le chien, il nous sent aussi, alors ça veut dire. Parce que... Non, mais c'est vrai, on dit souvent ça.
Ça y est, on est reparti sur le chien.
Non, mais c'est vrai. Mais Johan, je compatis.
C'est impossible
de faire
cette chronique,
Jimmy. Je sais pas qui c'est Johan, mais
c'est
là, je l'adore. Mais est-ce que Johan, il devrait faire un peu la grève du sexe et poser un ultimatum en disant...
C'est le chien
pas de négociation,
moi.
C'est le chien ou moi. Est-ce qu'il faut aller franco ou au contraire patient et accepter des préliminaires et puis après on le met dehors ou...
Mais non, c'est pas mieux. Non, si on peut pas pour la pénétration, on peut pas pour les préliminaires de toute façon. Eh bien, à chacun justement sa pudeur et le besoin de son lieu de pudeur, de sa sexualité uniquement partagée avec son partenaire en effet. Et l'animal représente de toute façon, parce qu'encore une fois, c'est pas l'oiseau, c'est pas comme si vous faisiez l'amour dans la nature et qu'il y a des oiseaux. C'est votre animal de compagnie, c'est un membre de la famille.
Qu'on aime
et
avec qui on a des relations.
On a de l'affection, qui a des revendications propres, etc. Comme un enfant, donc effectivement, si ça ne convient pas à l'un des deux, c'est extrêmement recevable.
On met le chien dans une autre pièce.
Et puis, il y aura le moment où la maîtresse pourra retrouver son chien, le faire des câlins, lui donner à manger, le sortir, etc. Mais là, c'est le temps de l'amour et il n'y a pas lieu d'y avoir ce chien s'il est dérangeant pour l'un des partenaires, de fait.
Merci beaucoup Catherine Blanc pour tous ces conseils précieux. Comme toujours, on vous retrouve bien sûr lundi avec le docteur Jimmy Mohamed également. Tout de suite, place à Mathieu Noël et à son équipe et sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes propriétaire ou locataire ?
propriétaire depuis
peu.
Oh,
madame est propriétaire, c'est dommage. Vous auriez pu bénéficier des conseils de Stéphane Plaza, qui est notre invité cet après-midi, le roi de l'immobilier sur M6, nous donnera ses petits conseils pour tirer profit de la reprise du marché immobilier.
J'espère qu'il s'occupe aussi des propriétaires, hein, parce que moi je voudrais bien un peu plus grand après ce confinement.
Ah,
quand même,
mais tout est possible, tout est possible. Super. J'en toucherai un mot à Stéphane.
Merci beaucoup, et je suis sûre que ça sera très intéressant. Alors vous aussi, surtout, restez sur Europe 1. Hein.